Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Silence. Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre aujourd'hui pour vous. On discute de, vous voyez là, il y a des articles là-dessus, le déconfinement, tout ce qui est téléphone, on voudrait mettre une application sur les téléphones intelligents pour nous protéger pour le déconfinement sur la COVID-19. Qu'est-ce qu'il y en est? On parle à Éric Parent, qui est un expert en cybersécurité. Ensuite de ça, ben on va continuer la conversation un peu plus tard avec Nicole Gibeault, juge à la retraite, qui nous explique c'est quoi l'impact sur les droits et libertés. Avant ça, on parle à Maître Boily, on parle des immigrants illégaux qui sont devenus, qui aident beaucoup parce qu'ils travaillent beaucoup dans les CHSLD. Ensuite, ben, pour finir, on répond à vos questions, les questions que vous nous posez sur le Facebook de Cube Radio ou sur notre ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Accepteriez-vous d'être surveillé par votre téléphone? Certaines personnes, ça leur fait peur, d'autres non. Déjà, je pense qu'on est quasiment... moi, quand mon téléphone, quand je vais, j'ai l'habitude, par exemple, d'aller au gym, un moment donné, il me dit « c'est combien de temps aller au gym de l'endroit que je suis habituellement? » Ça fait peur de voir ça. Et là, ben, avec la pandémie, le déconfinement, on regarde tout ça pour pouvoir... on parle ici là, d'une application COVID là, qui serait peut-être mise en place. C'est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. C'est un OSBL composé de chercheurs universitaires d'entreprises du Québec spécialisés en intelligence artificielle. Dans le fond, c'est un logiciel téléchargeable sur votre cellulaire qui utilise la technologie Bluetooth et la géolocalisation là, qu'on connaît tous pour déterminer le risque d'infection, où vous allez au resto, comment ça fonctionne. Évidemment, ben, peut-être qu'il y aura d'autres utilités. Si on a la COVID, peut-être que notre téléphone le sait. Si on n'a pas respecté des règles de confinement, peut-être qu'on pourrait se servir de ça. Donc, on en parle avec Éric Parent, spécialiste en cybertechnologie, président d'Eva Technologie. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Merci d'être là. On voudrait mieux comprendre, comment ça fonctionne, ces logiciels-là. On sait que notre téléphone nous géolocalise déjà, là, mais comment qu'on peut l'utiliser?
En gros, on parle d'avoir une application qui va être volontaire. Pour l'instant, on parle de si c'est volontaire. Mm-hmm. On va pouvoir télécharger l'application et puis ça va nous poser des questions pour savoir peut-être quel âge qu'on a. On a-tu des symptômes, des choses de ce genre-là. Après ça, ça va utiliser les informations de géolocalisation, GPS et Bluetooth pour qu'on puisse voir est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre qui est proche de nous. Qui utilise également l'application. Ça va tout prendre ça, puis ça va envoyer ça en arrière-plan, dans l'info nuagique, là, si on veut, pour que ça soit analysé par des chercheurs en intelligence artificielle.
OK. Donc, eux, c'est de l'information sur la COVID, dans le fond.
C'est de l'information, pour l'instant, c'est de l'information de géolocalisation. Il y a les aspects sociaux là-dedans. Parce que, évidemment, si les gens ne respectent pas les règles de distanciation sociale, ben, on peut le déduire à partir de ces données-là. Et puis, le côté anonyme, il faut faire attention, parce que quelqu'un qui a accès aux données de géolocalisation, même s'ils sont anonymisés, on peut quand même déduire qui est, hein, parce que faut pas se le cacher, on couche à quelque part, et puis on revient à la maison, on est souvent là. Fait que ça veut dire que c'est bien beau que c'est anonyme, mais quelqu'un a accès aux données, ben, il peut évidemment déduire qui on est, parce qu'on est toujours à la même place.
OK. Donc, il y a ce danger-là d'information. Parce que déjà, là, je pense que tu es la bonne personne pour m'expliquer ça. Notre cellulaire, il nous traque déjà. Là. Il sait qu'est-ce qu'on fait. Il sait où on va. Il connaît nos habitudes. Là. Si notre cellulaire tombe entre les mains de quelqu'un... là. Mais d'ailleurs, est-ce que ça peut être piraté, ça? Est-ce que... Il y a déjà ce danger.
Il y a plusieurs faiblesses qui pourraient être exploitées. Dernièrement, il y a eu des nouvelles faiblesses qui ont été divulguées, qui touchent le Bluetooth. Donc, oui, il y a des attaques qui peuvent être faites, des choses qui peuvent nous exposer. C'est pas nécessairement l'application COVID qui ouvrirait cette porte-là. Là. C'est mm-hmm. juste qu'on serait déjà en train d'utiliser Bluetooth pour toutes ces choses-là.
Okay. Donc,
c'est le côté anonyme ou je peux le challenger comme je viens de faire, là, mm-hmm. mais c'est pas le côté vie privée, moi, que je trouve que c'est un problème. Il faut pas oublier qu'on a une gang de légumes qui se mettent en ligne puis ils se collent tous au Walmart.
Ouais.
Fait que, puis tu pourrais avoir quelqu'un qui s'est rapporté comme étant peut-être avoir des symptômes, fait qu'il est plus à risque. Puis il est dans l'autre allée à côté. Mais le Bluetooth, c'est pas une précision à tout faire. Là. C'est, fait que là, tu vas croiser quelqu'un, mais arrêter, il est dans l'autre allée. Fait que tu l'as jamais croisé. Là, ça va te donner une alerte comme quoi tu es plus à risque. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en quarantaine volontaire pendant 14 jours? Non, ouais, il n'y a pas personne qui va faire
okay.
ça. Puis de l'autre côté de la médaille, bien, quelqu'un qui décide qui s'est mal interprète ses symptômes ou qui décide d'exagérer, bien, pourrait introduire des faux données. C'est sûr qu'en intelligence artificielle, le rôle des statistiques, de travailler les données, c'est d'essayer de les éliminer, ceux-là. Mais ça veut dire que ça n'aura pas une précision qui va être assez bonne. Puis l'autre chose, c'est que tu pourrais te passer quelqu'un qui est malade comme un chien, mais qui est, ou bien autre, qui n'a pas de symptômes, mais qui est super contagieux. Et puis, tu vas regarder dans ton application, ça va dire qu'en réalité, ça va bien. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que ça donne un faux sentiment de confiance. T'sais. Fait que, l'autre affaire qui me dérange beaucoup certaines personnes, c'est que quand je vais aller à l'épicerie, là, tu es obligé de montrer que j'ai l'application d'installer et activée. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va me dire, ben non, voyons, c'est pas une dictature. Ben oui, mais là, pourquoi que le gouvernement est impliqué? Pourquoi c'est pas juste entièrement volontaire qu'on n'a pas cette OSBL-là qui suggère cette technologie? Puis ceux qui veulent s'y abonner, ben ils vont l'essayer. Le gouvernement est impliqué. Ça fait que ça, mm-hmm. c'est une direction, disons, plus dangereuse. On va-tu finir par avoir des actions de détention, arrestation, discrimination? Ils vont dire non parce qu'ils vont se cacher sur le côté anonyme. Mais c'est faux. Parce que les données, ils rentrent. Là. Si tu vois qu'il y a une masse de gens qui sont à quelque part, OK, tu sais pas c'est qui, quand la police va arriver, ils vont savoir c'est qui.
Ouais.
Fait qu'il y a plein de problèmes avec ça. Puis l'affaire d'OSBL aussi, ben c'est sûr que là, je critique. Là. C'est toujours facile de critiquer. Là, mais on a une longue série de personnes qui sont impliquées là-dedans, qui pourraient tirer profit de l'intelligence récoltée par les techniques d'analyse puis les données qui vont être récoltées, malgré que c'est anonyme. Et puis, ça va être au privé. Il y a quelqu'un qui va faire de l'argent avec ça. Mais les règles d'un OSBL pour protéger la vie privée sont pas pareilles. Ils sont plus lousses. Ils sont plus slack.
Mm-hmm.
Puis, en plus de ça, ben, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire dessus? Tu peux pas vraiment taper dessus s'ils font des affaires de pas correct. Fait qu'on a un comité d'éthique, mais qui est honorifique. Waouh! Impressionnant.
Ah. Okay.
Fait que c'est le rêve d'un chercheur en intelligence artificielle parce qu'on pourrait avoir plein de données à traiter. Puis, c'est sûr qu'on a une belle excuse en plus. Puis l'intelligence qu'on va récolter, c'est pas vrai qu'elle va nous servir cette semaine, là. Mais dans le futur, hein, supposons qu'on a une autre pandémie dans 5 ans, ben c'est sûr que c'est super intéressant. Mais c'est plus l'approche qui est peut-être plus problématique dans notre culture. Mmh. Et puis le côté que je dis, les humains, ils écoutent pas. Là, anyway. Fait que moi, je me lave les mains quand je suis les règles, quand je vais au supermarché, je regarde plein de monde là, qui sont tout croches. Ça se peut pas être cave de même. T'sais, ils mettent des lignes à terre aux 2 mètres, et le monde n'a même pas grave de se mettre à la ligne. T'sais. Fait que là, on parle d'une affaire volontaire.
Mmh, ouais.
C'est spécial.
L'humain, c'est sûr. L'humain, des fois, est humain. Puis, oui, beaucoup de récalcitrants, on le voit tous. Là. Beaucoup de gens qui ne voient pas les conséquences possibles. Il y en a, tant que c'est pas arrivé, des Thomas, ils ne croient pas. Mais je comprends bien la problématique, c'est ça, c'est volontaire. Je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi, c'est que ça peut donner un faux semblant de sécurité. Parce que concrètement, l'application, là, on parle de l'épicerie, mettons, on irait au restaurant. Là, je prendrais mon application, puis là, je pourrais voir qui autour de moi serait à risque. C'est un peu ça?
Bien, ce ne serait pas automatique, mais c'est que si pendant que tu étais au restaurant, tu as croisé des gens qui étaient à risque, ton indicateur de risque va changer. Fait que là, le lendemain, tu vas te faire dire, hey, sais pas quand, là, ils te le diront pas quand, parce que là, ça éliminerait le côté anonyme. Mais ils vont dire, dans les derniers X nombre d'heures, vous avez cru dans les dernières semaines, je sais pas comment ils vont phraser ça, parce que si tu ne sors pas beaucoup, tu vas savoir exactement c'est qui t'a croisé. Mm-hmm. Pour maintenir le côté anonyme, ben, faut que ça soit un peu plus vague. Ça va dire que ton risque est maintenant plus élevé, puis là, ça va te recommander des choses à faire, comme plus sortir.
OK.
Ben, oh, ouais, que j'essaie de voir qu'est-ce que tu veux même recommander. Si tu dis que je suis rendu à risque, tu vas me dire quoi? Garde maintenant 6 mètres au lieu de 2 mètres. Le monde va même pas garder à se mettre sur la ligne. Fait que c'est très difficile de voir comment qu'on va avoir un réel gain dans le problème qu'on a maintenant. D'un point de vue recherche, d'un point de vue intelligence artificielle, c'est, comme je dis, c'est le jackpot, là. Ouais. C'est merveilleux. Mais d'un point de vue comment, en anglais, on dit « when the rubber hits the road », là, quand on va vraiment essayer d'en tirer un bénéfice, là, ben, moi, je le vois pas. Il y a bien des mondes du monde qui le voient pas. Puis mondialement, à date, les applications de ce genre-là, ça a pas vraiment rien donné.
Ça fonctionne pas, vraiment. Mais on...
Ça donne pas ce résultat-là, en tout cas.
Non, puis je comprends le danger de toutes les informations parce que, comme on s'en est déjà parlé avec les cartes de crédit, tout le monde prétendait assurer une confidentialité, puis ça vaut de l'argent. Donc, quand c'est piraté, là, il est trop tard. Mais est-ce qu'on va aller dans la science-fiction? Peut-être, j'espère que la réalité ne dépassera pas la fiction, là. Le gouvernement qui s'en mêle, là, c'est un outil, il pourrait... Penses-tu qu'il pourrait aller jusqu'à nous obliger d'avoir cette application-là pour contrôler? Là, ça serait quelque chose.
Bien, c'est un peu ça que je vois. Là. C'est ça qui est dangereux. T'sais, l'érosion des droits, ça se fait toujours, c'est pour ça qu'on utilise le mot érosion, ça se fait graduellement. Mm-hmm. Du coup, si tu reviens d'abord, tu te dis, bon, moi, j'ai plus le droit de rien faire. J'ai plus le droit de faire les affaires que je faisais il y a 10 ans. Et puis, ça se fait progressivement, fait que ça perd à peau. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs ou il y a des gens en sécurité et dans les domaines éthiques et moraux qui vont critiquer ça. Ils vont dire, hey, je comprends l'idée, là, mais en partant, on sait déjà que ça ne marchera pas. Mm-hmm. Puis en plus de ça, ben on graduellement, on s'en va dans une direction où, comme je dis, on va me l'imposer quand j'arrive à l'épicerie. Supposons que moi, j'ai un vieux téléphone qui n'est pas un smartphone, là, qui n'a pas d'application dessus. Ben là, je vais toujours quoi? De m'acheter un nouveau téléphone parce que je faut gérer l'application. Ça devient vraiment inconfortable. Puis c'est là que la discrimination va se faire. Parce que là, on va te demander en rentrant, on te demande déjà si tu as des symptômes quand tu vas à l'épicerie. Il n'y a pas personne qui va dire oui, là, si tu t'en vas là, t'as attendu en ligne. Fait que, c'est cute. Ça rend ça donne un sentiment de confiance que, mon Dieu, hey, il vérifie. Comme quand il y avait les coupons là, à l'aéroport. Il n'y a jamais personne qui est mort par coupon. C'est long et pénible de tuer par quelqu'un avec un coupon.
Ouais.
Mais ils nous l'enlevaient. Là, parce que là, le monde qui ne connaissent pas la sécurité, ben, ils disent, mon Dieu, ils sont vraiment stiffs. C'est sécuritaire, un aéroport. Là. Ils nous enlèvent même notre coupon. Fait que c'est tout cet aspect-là là, qui est un problème dans le cas actuel.
Oui, je comprends. C'est vraiment... c'est quelque chose. Puis le gouvernement d'imposer ça, ben, c'est sûr qu'il y a un réel danger. Et... Je sais pas, je fais une blague à part. Je sais pas si tu as déjà écouté Star Wars. Là, l'empereur. Pour ceux qui ont écouté Star Wars, c'est un peu ça. Je retiens ton mot. Les droits et libertés, c'est avec l'érosion. C'est tranquillement parce qu'en ce moment, on donne beaucoup de pouvoir au gouvernement. On les laisse faire parce qu'il y a l'urgence et tout, puis c'est normal. Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va revenir à la normale? Vont-ils redonner ces pouvoirs-là? Et dans Star Wars, je fais mon comparable parce que l'empereur Palpatine se fait donner tous les pouvoirs pour régler une crise, mais à la fin, il y redonne. Pas. C'est là que ça devient.
Ben, c'est ça, exactement. Puis là, d'ailleurs, on voit déjà des symptômes, donc c'est facile, il ne faut pas rentrer trop en politique, là, mais ouais. Ils nous redonnent l'argent, c'est gentil, là, c'est super cool. Ils vont nous donner ça au compte-gouttes jusqu'à la prochaine élection, mais il ne faut jamais oublier que c'est notre argent qu'ils sont en train de nous donner.
Ben, c'est ça.
Fait qu'on se calme 2 minutes, puis on sait qu'ils vont nous taxer après. Fait que, mais ça a l'air du Père Noël. Là,
ouais.
Des programmes, ils en tombent du ciel. Puis, fait que, mais,
le pot va arriver à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, ben, tout ça sera payé par les gens. Mais en tout cas, au moins, ça permet de passer une crise. Et c'est intéressant ce que tu nous as expliqué là. On retient ça, il faut être prudent. Moi non plus, je pense pas que c'est la solution. Là. Je veux dire, c'est quelque chose à analyser. Bon, on va en reparler.
Pourquoi ça marche, il faudrait que ça soit obligatoire, tout le monde là. Et puis en plus de ça, les données médicales qu'on rentre, c'est pas rentré par une personne qui n'est même pas capable de se mettre debout sur la ligne. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui vient combler. Si tu aurais ça, ben, d'un point de vue scientifique, tu dirais que c'est solide notre affaire. T'sais, on a un thermomètre qui est placé en permanence. On moniteur d'un point de vue vraiment science. Mais c'est pas ça qu'on parle. On parle apparemment bénévole.
C'est du monde qui... Grosse différence entre ce qu'il y a sur papier puis en application sur le terrain. Je comprends ce que tu veux dire. Ça serait pas facile. Merci tout le temps qu'on avait. Très intéressant. On s'en reparlera, Eric Parent, d'Eva Technologies. Merci beaucoup.
Bienvenue,
bonne journée. Bonne journée, bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Les anges gardiens et les immigrants illégaux qu'ont-ils en commun pendant cette pandémie? Là, on a découvert tout à coup que beaucoup d'immigrants illégaux qui avaient traversé la frontière par le chemin Roxane en Estrie se trouvent tout à coup comme travailleurs essentiels à la santé de nos aînés, comme préposés aux bénéficiaires, à l'entretien ménager, autres tâches nécessaires là, pour le mieux-être, on en a besoin. Mais par contre, maintenant, on doit légalement régulariser la situation parce que, bon, il ne faut pas... On en a besoin, mais il faut que ce soit dans les règles de l'art. On en parle avec Maître Jean-Paul Boily, notre chroniqueur. Bonjour.
Oui, il faut en parler parce que ces gens-là, effectivement, le premier ministre, il a dit que c'était des anges gardiens au départ, là, mais à un moment donné, il était devenu cornu, les anges, parce que là, il disait, ben là, on sait pas trop. Finalement, il a reviré un peu sa veste là, dans les derniers jours, les dernières semaines, pour dire, écoutez, c'est du cas par cas, on va regarder, parce que vous savez que ces gens-là qui sont rentrés légalement au pays, bon, s'ils rentraient par le chemin Roxane, ils se faisaient prendre en charge par les autorités de l'immigration, la police était là, la GRC, et ils les amenaient dans des endroits pour les prendre en charge comme étant des réfugiés. Hein? Alors que s'ils arrivaient à la frontière normale, ils auraient dit, écoutez, vous n'avez pas de papier en règle, vous ne pouvez pas passer ici. Là, en passant dans un chemin...
S'ils ne mettent pas le pied sur le territoire, ils y retournent.
Oui.
Mais avec le chemin Roxane, là, ils sont sur le territoire, ben là, légalement, ils les prennent en charge.
Ben, ils les prennent en charge jusqu'à ce que leur statut, parce que pour devenir citoyen canadien, pour être demandeur d'asile, il y a deux raisons. C'est fort simple, là, ça prend des motifs de sécurité ou des motifs humanitaires. Le problème est que ces gens-là, à majorité haïtiens, faut pas se cacher, là, c'est majoritairement, souvenez-vous, lorsque Donald, votre ami le canard, dit que les gens qui étaient rentrés sur les territoires américains depuis nombre d'années, il y en a qui se fait 10, 15, 20 ans, même les enfants de ces gens-là, pourraient devenir des citoyens persona non grata, c'est-à-dire des personnes qui ne sont plus bienvenues sur le territoire américain, d'où ces gens-là, faut pas oublier, là, ces familles-là sont parties de Haïti pour s'en venir aux États-Unis. Il y en a qui ont monté au nord, jusque dans l'État de New York. C'est plus le même climat qu'Haïti. Les autres sont pas partis d'Haïti parce qu'ils n'aimaient pas le climat, là, je pense pas. Là. Ils sont partis de là parce qu'ils étaient dans des conditions humanitaires qui n'étaient pas correctes. C'est évidemment souvent des familles parce qu'ils veulent effectivement... Ah, il y a des pommes pourrites à travail comme il y en a dans la société. Aller des prisons canadiennes et québécoises, c'est pas toutes des personnes qui viennent de l'étranger qui sont là-dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui, on les appelle les purlaines. Il y en a aussi. Là. Alors, des mauvaises personnes, il y en a partout. Il y en a parmi les immigrés aussi. Mais il faut comprendre. Là, M. Legault, il dit, même le premier ministre Trudeau, c'est des gens gardiens parce que c'est eux qui sont allés au front. Ils sont allés comme préposés aux bénéficiaires. Ils sont allés comme à l'entretien ménager. Ils font du travail que bien du monde ne veut pas faire, des fois.
Bien, justement, on ne se cachera pas, là. Il y a les Québécois, beaucoup de gens, pour eux, ramasser, excusez l'expression, la merde.
Ouais.
C'est pas un travail pour
exact.
Eux, ils veulent pas le faire.
On
dira, les immigrants sont souvent très travaillants. Là,
oui, parce qu'ils voient l'opportunité, puis pour eux, évidemment, le salaire, surtout là, écoutez, le préposé aux bénéficiaires, se rendre dans un CHSLD, remarquez que ces gens-là, en général, les emplois qui sont plus payants sont pris par les gens qui ont plus peut-être de parce que souvent, les CHSLD, des gens sont syndiqués, donc ils ne peuvent pas rentrer nécessairement là, mais dans les entreprises où le privé est là majoritairement, c'est surtout là on parle autour de 800 Haïtiens, en fait, c'est la communauté haïtienne de Montréal qui a lancé ces chiffres-là, cette cette semaine. Donc, c'est des gens qui vont aller aider dans les endroits, par exemple, privés, où il manque nettement de personnel. On a vu le Héron et Saint-Dorothée et les autres. Là. Alors, ces endroits-là ont besoin de personnel, puis ces gens-là vont au front. Ces gens-là pognent des fois aussi le virus, la COVID, sont malades, puis bon, on peut transmettre ça à leur famille, mais ils n'ont pas peur d'aller au front.
On en a besoin, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé à Maître Ménard Martin, là, qui bon, du cabinet Ménard, sait en droit de. Et on parlait de ça dans les CHSLD. Là, c'est des histoires de climatisation qu'ils n'ont pas. Il y a beaucoup de responsabilités. Il manque de préposés, il manque de monde. Ces gens-là sont quand même importants, même s'ils sont en théorie illégaux.
Tout à fait.
Donc, mais ils peuvent régulariser ça?
C'est-à-dire que là, ce que M. Legault a annoncé, il a nommé le ministre de l'Immigration du Québec, Simon-Jolin Barrette, là, un peu comme un émissaire là-dedans, disant, écoutez, bon, les cas, c'est facile qu'un ministère, évidemment, c'est pas le ministre qui va prendre les 1000 cas un par un qui va les regarder, mais il peut nommer des gens, il peut déléguer, hein, c'est un pouvoir qui est délégué. On dit en latin, delegatus non potest delegare, vous vous souvenez de votre latin. Une personne qui a un pouvoir délégué ne peut pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Sauf que dans un cas comme celui-là, c'est un pouvoir qu'on dit ministériel. Donc, le ministre peut déléguer son pouvoir à des fonctionnaires ou à des gens qui vont vérifier ces dossiers-là et qui, effectivement, vont se rendre compte qu'il y a peut-être matière à aller faire un accroc. Vous savez, les lois, souvent, puis on va arrêter de le dire, là, c'est fait pour qui, on le sait. Bon, alors, mais les lois, souvent, on peut essayer, non pas de contourner la loi, mais d'adapter la loi de façon à ce qu'une situation qui arrive comme celle-là, où on a des gens qui, normalement, sont rentrés de façon illégale dans un pays, pas pour des raisons nécessairement humanitaires ni sécuritaires, parce qu'on a encore là le problème. Aux États-Unis, est-ce que leur vie est en danger si les Américains les retournent à Haïti? Et là, à ce moment-là, c'est toute une question sociale.
C'est la notion aussi du pays tiers sûr.
Exact, tiers sûr.
Parce que théoriquement, on devrait. Les États-Unis sont un pays tiers sûr.
En principe.
Mais là, ils sont plus trop parce qu'il y a tellement un risque qu'ils soient directement retournés.
Puis le problème, on en a déjà parlé à l'émission, c'est que le problème, c'est que si on les retourne à Haïti, est-ce que leur vie est en danger? Bon, il y a eu le problème du tremblement de terre un moment donné. Il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que là, c'était la famine, la pauvreté extrême, etc. Bon, si on parlait d'un endroit, par exemple, totalitaire, dans un pays, par exemple, où leur vie serait menacée, on les envoie dans un pays, par exemple, je ne sais pas, c'est un pays qui, si la famille revient, il y a une fratricide ou quelque chose qui fait en sorte que leur vie est en danger. Bon, ça, à ce moment-là, on peut dire c'est une raison de sécurité. Une raison humanitaire, ben, Haïti en était le cas à l'époque. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Là, il pourrait y avoir un discours là-dessus, il pourrait y avoir des plaidoiries. Mais la façon dont on le voit maintenant, c'est qu'on dit, écoutez, mettez ça à l'envers. Les raisons humanitaires pourraient être très bien vues de ce côté-ci de la frontière, puis dire, écoutez, c'est une raison humanitaire parce que ces gens-là sont venus risquer leur vie, entre guillemets, soyons, pesons nos mots, mettons des bémols, mais quand même risquer leur vie pour sauver les nôtres. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait pas prendre la loi qui parle de raisons humanitaires? Vous savez, il y a des interprétations strictes qui se font en droit, vous le savez, les avocats, c'est ce qu'on fait, on interprète les droits. On a des cours d'interprétation des droits à la faculté, puis on fait ça tout notre vie. On interprète des lois, des règlements.
C'est strict étant qu'on se tient à la lettre de l'article.
Exactement.
Interprétation large, on essaie d'aller plus libéral. Bon sens.
Mais là, on y va plus de façon, des fois, on dit que des juges conservateurs et libéraux aux États-Unis, là, c'est un peu pareil ici. Il y a des juges qui sont plus conservateurs, donc ils vont être plus stricts. On dit stricto sensu. Ils vont être plus suivant la rédaction de la loi, comme vous dites, et d'autres vont être plus ouverts. Ils vont dire, ben, humanitaire peut-être vouloir dire également un motif, comme on vit présentement. C'est-à-dire que là, on dit que c'est des gens qui, oui, sont peut-être pas rentrés de façon humanitaire ici, parce que c'est peut-être pas parce qu'ils crevaient de faim aux États-Unis, mais c'était en vue de probablement prévoir ça. Puis là, bon, on le transpose ici, puis on dit, ben là, pour notre sécurité, puis pour des raisons humanitaires, pour nous et non pour eux, on peut peut-être faire un accroc à la loi.
C'est ce qu'on voudrait.
Oui, on veut trouver une solution.
Moi, je suis ouvert aux cultures, je suis ouvert, puis je comprends que c'est... Mais... C'est sûr qu'on aimerait peut-être avoir de l'immigration qui qui est ciblé. On a besoin de ces gens-là. C'est complexe parce qu'on veut régulariser des gens qui sont rentrés illégalement. Y a-t-il un mauvais message à envoyer là-dedans?
Il faut faire attention, mais il y a des choses importantes à comprendre.
Mais est-ce qu'on pourrait aller, puis là, je sais pas, dans les droits de l'homme, on pourrait-tu arriver à faire de l'immigration qui est vraiment pensée travail, dans le sens que d'accepter des immigrants qui acceptent d'aller travailler dans nos CHSLD? Je pense pas qu'on peut... On peut pas les forcer à faire un travail
Non. Tout peut se faire. Écoutez, il y a plusieurs années, l'immigration mexicaine, par exemple, les gens qui viennent travailleurs, parce qu'ils sont des travailleurs dans les champs, parce que nos bons Québécois, nos bons Canadiens ne veulent pas. Il y en a qui le font, là, puis ils sont vaillants, mais c'est pas tout le monde. Alors, eux, ils viennent...
Ça sera pas les étudiants cette année avec la PCU,
Pas avec la PCUE, on a oublié ça. Mais il reste... Il va en avoir encore, mais très peu. Mais il reste que ces gens-là... Bon, on a fait des accros, on a modifié les lois d'immigration pour permettre à ces gens-là, surtout aux agriculteurs canadiens et québécois, de pouvoir avoir cette main-d'œuvre-là, qui n'est pas nécessairement de la main-d'œuvre bon marché. Pour eux autres, gagner 13 $ l'heure, et au Mexique, le salaire est à 3 $ l'heure. Alors, pour eux autres, c'est important. Ils viennent, puis ils viennent pendant 5-6 mois, et ils sont contents de le faire parce que ça fait vivre leur famille. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, on le fait pour ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Moi, ma réponse est oui. Il s'agit de faire certains ajustements et surtout. C'est facile, des fois, d'appliquer ou d'interpréter un règlement ou une loi de manière, oui, discrétionnaire, oui, avec une certaine liberté, mais avec le gros bon sens. On le dit tout le temps, les lois, c'est là pour que les choses marchent rondement et surtout pour que le gros bon sens s'applique puis qu'on puisse être capable de faire des choses de façon... correct et de façon, encore une fois, humanitaire, parce que ces gens-là, écoutez, ils nous sortent de la merde, là, c'est carrément ça. Puis s'ils n'avaient eu 8 000 au lieu de 800, bien tant mieux, on ne chercherait pas un autre 10 000. Là, on en cherche là, cette semaine encore un autre 10 000. On augmente les salaires, puis ces gens-là sont prêts à travailler à des salaires moindres. Alors pourquoi pas les prendre? Puis les intégrer ici.
Ouais, on peut pas être contre la vertu, c'est certain. Sauf qu'il y a beaucoup de choses techniques, on n'aura pas le temps d'en parler.
Ah non, c'est clair que c'est
compliqué. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à faire un type de travail une fois qu'il est là?
Sûrement pas. Mais ces gens-là sont prêts à le faire. Et s'ils sont déjà là, ben je dis, on les force pas. Ils sont allés de leur plein gré. Alors aidons-les à devenir des citoyens
ici. Comme vous dites,
ici,
on le fait avec les champs, tout ça. Bon, à suivre. Merci, Matt Boily. On se repart.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
C'est un sujet, j'ai parlé tout à l'heure à Éric Parent d'Ever Technologies, la cybersécurité. Ce sujet-là, des téléphones intelligents, on l'a tous, on a tout notre téléphone, c'est rendu rare quelqu'un qui ne l'a pas. Et dans le déconfinement, s'en servir pour savoir où il y a des dangers, où il y a des risques, on se pose la question, le gouvernement pourrait-tu imposer ça? C'est quoi cette histoire-là de nous traquer, de nous savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre santé, le danger de tout ça sur les droits et libertés, évidemment. Et j'en avais parlé à Matt Boily aussi, j'ai parlé à un expert et là, je voulais en parler avec quelqu'un qui a été sur le banc, une juge à la retraite que vous connaissez tous, maître l'honorable Nicole Gibault. Ancienne honorable, c'est ça, mais on reste honorable toute notre vie, je pense.
Non, ben là,
bonjour Nicole. Là, mais...
Bonjour, François-David.
C'est tout un sujet, là. Puis là, on avertit nos auditeurs, on n'a pas la réponse parce qu'on nage dans le nouveau, là. Je veux dire, on analyse ça. On pourrait-tu aller jusque-là, ces applications-là, l'impact sur nos droits et libertés? Comment tu vois ça, Nicole?
Ben, en partant là, on commence toujours par la même phrase. On n'est vraiment pas dans une situation qu'on connaît. On n'est vraiment pas dans. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est jamais vu. Bon, on l'a entendu maintes et maintes fois par maintes et maintes experts en santé publique, les politiciens, les médecins, etc. Ben les juristes aussi. Alors c'est du jamais vu au niveau juridique non plus. On entend parler de ceci, de forcer des applications. On comprend que certains pays qui sont beaucoup plus dictateurs dans leurs mesures, puis qui vont forcer les gens, puis qui ont des qui ont les mesures coercitives absolument terribles. On ne veut pas aller là. C'est pas une question.
C'est pas notre pays. Là. On n'est pas le.
Non.
Pas une dictature ici. Là.
On n'est pas là-dedans. Sauf que ce qui est proposé présentement et ce qui est sous étude. Puis oui, je comprends que ça a énormément de volets sur la vie privée, sur ci, sur ça. Mais c'est une application qui serait volontaire. Alors moi, quand je vois et quand j'entends le mot volontaire, ben je me dis, coudon, si t'es pas d'accord, mets-la pas, l'application.
Mm-hmm.
Alors, pour avoir écouté la personne en charge pour la compagnie Milan, là, où je me suis pas comment son nom, Tangio, mais je me suis
fait
pas
l'application,
vraiment.
Là.
Oui.
COVID, là, c'est ça?
Oui, COVID, là. Ce monsieur, je l'ai entendu. J'ai écouté attentivement son exposé. Puis c'est vraiment extrêmement... C'est un des scientifiques en sciences artificielles
mm-hmm.
au monde. Un des meilleurs au monde. Alors, et j'ai écouté tout ça, puis je me suis dit, bien, écoutons, c'est d'abord, premièrement, c'est volontaire, je le répète.
Mm-hmm.
Et en étant volontaire, ça veut dire que la personne accepte et connaît les conditions. Puis c'est des renseignements de façon très générale. Mais c'est sûr qu'on lui a posé la question à ce monsieur-là. On disait, est-ce en termes populaires, là, est-ce qu'un hacker pourrait s'en servir à mauvais escient? Ben c'est sûr. On le voit tous les jours. Moi, là, François David, là, comme tout le monde, là, je sais pas combien de courriels j'ai reçus depuis le début de la pandémie qui est nettement de l'arnaque. C'est clair.
Ah, oui.
J'en ris parce que j'ouvre aucun de ces courriels-là, puis je dis à chaque fois je leur parle en disant non, vous m'aurez pas, là.
Ah, c'est
mais
ça.
C'est comme évident, mais par contre, il y a des fois que c'est tellement, ça ressemble tellement, tu sais, de ce temps-ci, on commande toutes sortes de choses par la poste ou par UPS, puis on reçoit des avis, c'est prêt, mais oups, il faut payer une pièce, c'est 89, puis il faut peser là-dessus pour le hey! Mais ce que je veux dire...
Les gens profitent de la vulnérabilité, ça, c'est ça qui
est incroyable. Ça, c'est incroyable. Mais pour ce qui en revenir à l'application comme telle, est-ce qu'un hacker professionnel, puis Dieu sait s'il y en a, serait capable, ben, selon ce que j'ai entendu, c'est que il n'y a rien d'impossible. T'sais, on pensait
ben, surtout que toutes les... Avec ce qu'on a vu avec les cartes de crédit, là, personne
ben,
n'avait
voilà,
prévu ça.
Ben voilà, j'étais pour te dire, regarde, qui c'est qui aurait pensé, avec toute la sécurité avec Desjardins, qu'on aurait eu ce qu'on a eu cette année comme dénonciation avec ceci? Ben, mm-hmm. c'est absolument impensable, mais oui, c'est arrivé. Est-ce que ça peut arriver dans d'autres banques? Absolument. Et est-ce que ça va encore arriver? Moi, je vais dire une chose, c'est que depuis l'avènement de l'Internet, on est exposé à tout. Est-ce que ça, c'est plus? Ben, c'est à chaque journée.
Mm-hmm.
Il y a une autre application de plus, puis il y a une autre affaire. Puis les hackers ont un job à plein temps. Là. Ils sont occupés 24 heures sur 24, eux autres, à trouver
sont
une manière.
Ils sont imaginatifs, ça, c'est certain.
Ils sont très imaginatifs. Ouais. Alors, est-ce qu'ils réussiraient à obtenir d'autres choses? Il est minimalement possible. Mais est-ce que ça aurait un bienfait pour ceux? Puis c'est pas vrai que ça prend toute la population. J'entendais le monsieur qui disait là, non, c'est pas nécessaire que ça prenne un ensemble de population complet.
Mm-hmm.
Des échantillonnages dans de, tu sais,
on n'est pas obligé de tous savoir, là, c'est ça?
Non, non seulement on n'est pas obligé de savoir. Ben, d'ailleurs, le nom n'est pas là, etc. Les informations qui sont sensibles ne s'y retrouvent pas,
mm-hmm.
et vous devez accepter, donc vous acceptez de donner votre âge, votre condition physique, votre sexe, est-ce que vous prenez l'autobus, est-ce que vous prenez plus le métro,
mm-hmm.
tu sais, des choses comme ça, est-ce que vous magasinez plus dans des épiceries de telle nature allez-vous, tu sais, ou faites-vous livrer vos choses, ou bon, c'est plusieurs questions de nature générale, mais à ce moment-là, ça permettrait, puisque ce qu'on expliquait, puis je trouve ça intéressant pour mm-hmm. la protection et des gens, mais la protection de la santé des gens, c'est que ça donnerait la possibilité que, par Bluetooth, là, on comprend tout ce que
ouais.
ça veut dire, ça connecte les uns avec les autres, ceux qui ont accepter pour dire, écoutez, vous avez peut-être croisé une personne, vous avez été dans l'entourage d'eux, attention, faites attention pour les 5, 6, 7, 8, 10 prochains jours. Là.
On voit, c'est ça, volontaire, on voit l'utilité que ça peut avoir. Mais Nicole, on va pimenter ça un peu, là, dans le sens, oui, volontaire, mais est-ce qu'on pourrait arriver à penser, puis on spécule, là, que le gouvernement oblige les gens de faire ça. Parce que là, on veut savoir qui a la COVID, où ils sont. Bon, on veut être capable de les contrôler avec la géolocalisation parce qu'on sait que c'est faisable. Là, on pourrait-tu assister à ça? Là? Peut-tu arriver?
Ben, mon opinion là-dessus, là, c'est que, puis encore une fois, c'est tellement nouveau.
Ouais.
Juste regarder dans quel genre de pays on vit. Avec notre Charte des droits et libertés, puis combien notre gouvernement canadien est pro Charte et liberté, et le Québec aussi, et différentes provinces. Je vais dire que si on était dans un autre pays, puis pas si loin que ça, et qu'on avait décidé, ben, c'est même ça marche, c'est un peu plus drastiquement. Moi, je ne pense pas que ça va venir à une obligation. Il faudrait que ça devienne là, je comprends que c'est une pandémie là, mais là il faudrait que ça dégénère, affolé.
Ouais,
il faudrait que ça soit affolé, qu'on soit plus capable d'arrêter personne, qu'on essaye de confiner les gens, que ça marche pas, que ce virus-là qu'on partout, qu'on est. Tu sais, je pense qu'on va être obligé d'arriver à l'extrême avant que notre pays, notre province. Je pense qu'on a cette protection-là, puis avant d'arriver là, c'est parce que vraiment, ça va être une grande nécessité, puis je pense que là, plus personne va vouloir même plus avoir de droit privé ou de protection de sa vie privée. Là. Ça va tellement être grave, mais je pense que ça, c'est d'être alarmiste. Je ne crois pas que ça va arriver là.
Parce que d'ailleurs, comme tu m'avais dit, Aaron aussi, ils auraient pu facilement obliger les masques, ils ne l'ont pas fait.
Exactement, c'est bon de me le rappeler, oui. On n'a pas obligé les masques à date, puis pourtant, plusieurs juristes, on en a parlé, puis tout ça. C'est pas quelque chose qui est nettement difficile à faire, mais oui, on est prudent, puis on est bien correct d'être prudent aussi.
Ouais.
Et on fait attention aux plus démunis, on fait attention à ci, on fait attention aux différentes ethnies, on fait beaucoup attention.
Ouais, ouais.
Mais là, on parle de port de gants, là, mais là, on met des gants blancs par-dessus des ports de gants, là, tu sais, là.
C'est bon. Mais je veux t'entendre, il nous reste environ 2 minutes, là, mais puis là, c'est de la pure spéculation. Mais toi, t'es sur le banc, là, puis on t'apporte une preuve disant telle personne a la COVID, puis on a un relevé parce que de son cellulaire, puis disant, bien, en réalité, il n'est pas resté chez lui 14 jours. Ça tient-tu à la route pour des accusations?
Hein? Non, je l'ai vu, mais pas en matière, évidemment, de pandémie ou etc., ouais. Mais on le voit dans des dossiers de drogue. On le voit dans des dossiers de haute criminalité comme ça, où on a suivi par texto, par GPS, par ci, par ça. Oui, mais ça prend des autorisations, ça prend ci, ça prend ça. Il y aurait beaucoup de matière avant d'arriver à obtenir le cellulaire de cette personne-là pour en arriver à faire cette preuve-là. Et puis oui, ça pourrait toujours être contesté. Évidemment, ça serait un challenge de le contester. Mais est-ce qu'on a utilisé la technologie dans la vie pour des procès criminels? Absolument. J'en ai fait des procès criminels en matière de drogue et j'ai eu à me pencher sur ces décisions-là. Puis c'était des textos cellulaires, puis c'était pas des évidences. Là. C'était quelque chose qu'il fallait vraiment regarder, mais il avait obtenu les autorisations, les mandats qui devaient...
C'est intéressant. C'est du cas par cas, puis c'est pas vrai qu'on va arriver à avec une application parce qu'on sort de chez nous, que ça sonne au DPCP, puis que l'accusation...
Non.
C'est des enquêtes, puis il faut vraiment qu'il y ait eu du trouble avec ça.
Absolument.
On n'est pas là.
Puis avant même d'arriver là, on va s'assurer d'avoir les mandats, l'approbation. On va pouvoir les contester, les mandats. On va pouvoir... Tu sais, il y a beaucoup d'étapes, là, et que peut-être qu'on ne saura jamais c'est ce qui est arrivé, mais évidemment, non, pas pour demain.
C'est fait avec rigueur. Mais c'est rassurant, Madame la juge, d'entendre ça. Merci beaucoup, Nicole Gibault.
Ça m'a fait plaisir.
On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye.
Merci, bye.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
C'est maintenant l'heure de répondre à vos questions, les questions du public, avec Maître Jean-Paul Boily, qui est avec nous.
Toujours. Sans frais, aux frais de Cube Radio et de la haute direction, mais pas pour vous. Et puis, ça nous fait plaisir de répondre à vos
questions. Sans frais, vous ne recevrez pas de facture. On fait souvent la blague. Beaucoup de gens nous posent des questions en lien avec la pandémie, évidemment. Il y a Charlotte F. de La Prairie qui nous demande sur la ligne 187 Cube Radio si le gouvernement peut rendre le vaccin futur contre la COVID-19 obligatoire. Elle a peur que ça ne fonctionne pas si ce n'est pas le cas.
Oui, ça, écoutez, je prenais cette semaine notre ami Richard Martineau, qui recevait l'ancien joueur de hockey, Georges Larac. Mm-hmm. Et lui, il est vaccin, il ne croit pas à ça. Il a droit à sa façon de penser, là, mais c'était pas très scientifique comme réponse, là, ce qu'il donnait. Puis je pense que Richard l'a tassé un peu dans le coin. On sait que c'est un joueur de hockey qui est assez solide, là, Georges Larac, mais je pense que Richard, il a donné une bonne mise en échec. Mais peu importe. Écoutez, la réponse, c'est... Il pourrait le faire. C'est sûr qu'il pourrait le rendre obligatoire. Ça s'est déjà fait dans le passé. Rappelez-vous le SRAS, le H1N1.
Mais il ne l'avait pas rendu obligatoire.
Il n'était pas obligatoire.
Et la loi sur la santé publique prévoit qu'ils peuvent...
Ils peuvent le faire en vertu de la loi sur la santé publique. Parce que la façon de voir... Mais évidemment, il y a des gens, vous avez les témoins de Jéhovah qui ne veulent pas de perfusion sanguine, là, parce que ça salit l'âme. Mm-hmm. Écoutez, je ne suis pas expert en religion, là, et je me prétends pas non plus. Mais il reste que c'est quelque chose qui peut être prononcé par la loi, on l'a vu, parce que c'est une question de santé publique, puis c'est une question de protéger la population. Donc, la réponse à cette dame-là, c'est que oui, elle pourrait, il pourrait rendre ça obligatoire. Le problème, c'est qu'il y a des gens, les gens qui ne veulent pas avoir un vaccin, c'est difficile de les forcer, puis de les asseoir sur une chaise, puis de les attacher, puis d'avoir une ordonnance pour se faire piquer. Je pense que les tribunaux pourraient pas se rendre là. Le problème, c'est de convaincre la population, de dire, écoutez, vous le faites pour... Parce que le vaccin, si vous ne l'avez pas, puis que les autres l'ont, finalement, là, les autres vont avoir un vaccin pour vous protéger, vous. Alors, ça devient injuste, à un moment donné, pour la population. Donc, il y a une question, effectivement, de gros bon sens. C'est un peu comme les masques, là. On dit, si vous allez dans des endroits publics, le masque n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Alors, le vaccin, ça serait un peu pareil. Mais, légalement, il n'est pas impossible qu'il y ait une vaccination obligatoire. Comme il y a déjà eu des quarantaines obligatoires, comme il y en a eu, là, présentement, les gens qui arrivent de l'étranger doivent se mettre volontairement en quarantaine. Mais si vous arrivez d'un aéroport, puis vous n'avez pas de plan précis pour 14 jours, quelqu'un ne vient pas vous chercher, puis que vous restez confiné pendant 14 jours chez vous, bien, on vous prend, puis c'est pas, le représentant aux douanes a le droit de vous prendre, vous amener dans un hôtel qui a été désigné, puis vous allez rester là 14 jours, probablement nourri aux frais de l'État, mais quand même. Alors, il y a des moyens qu'on peut prendre maintenant. Est-ce que les gens, on doit se rendre là? On dit encore souvent, Maître Bernier, vous le savez, utilisez votre gros bon sens. Bon, les vaccins, lorsque ça va arriver, on espère qu'ils vont avoir été testés. Écoutez, ça fait déjà un an qu'ils sont là-dessus. Là. Bon, il est évident que les vaccins, des fois, encore là, on n'est pas médecin, mais est-ce que c'est sûr à 100%? Réponse non. Mais légalement, si on rend le vaccin disponible, on ose espérer que la population n'aura pas besoin d'une loi puis d'un règlement pour dire, écoutez, là, c'est le gros bon sens, allez vous faire vacciner pour ne pas contaminer les autres puis que vous soyez vous-même pas contaminé. Alors, je pense qu'on pourra facilement dire que...
Ils peuvent l'obliger, oui. Mais on pense que ça prendrait une situation extrême.
Puis il faudrait que la population... il y a toujours... on sait tout le temps, là, si le gouvernement veut adopter une loi puis que les gens ne sont pas d'accord, bien, vous n'avez qu'à défaire le gouvernement à la prochaine élection. Alors, le gouvernement va aller dans le sens de la population. Mm-hmm. Mais je pense pas que les gens sont majoritairement contre les vaccins. Oui, il y a théorie du complot un peu partout, là, mais ça, c'est une minorité, malgré certains sondages qu'on a vus. Ouais. Effectivement.
Parfait. Il y a autre question. Il y a Pierre P. de Pont-Rouge.
Ça fait des pistes.
Oui, pas mal. veut savoir comment les assureurs peuvent refuser de couvrir les centres pour personnes âgées. Et est-ce qu'il demande s'il n'y a pas une loi qui peut les empêcher de faire cela? Dans le fond, avec ce qui se passe, il n'y aurait plus d'assurance pour les centres de personnes âgées.
Le chapitre des assurances dans le Code civil, bon, vous avez suivi vos cours d'assurance à la faculté, j'imagine. Dans le Code civil, il y a beaucoup d'articles qui couvrent le droit des assurances, hein, que ce soit les assurances de personnes, les assurances sur les biens meubles, etc. Bon, les résidences, que ce soit des résidences privées ou publiques, évidemment, publiques, le gouvernement peut couvrir, mais les résidences privées, évidemment, le risque assurable en matière d'assurance, l'assureur n'est jamais obligé. Parce que l'assureur, ce qu'on fait, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les assureurs marchent avec les réassureurs qu'on appelle. On appelle ça les réassureurs, c'est entre autres les Lloyd's à Londres. C'est un regroupement d'assureurs qui font des potes ensemble. Lorsqu'il arrive des catastrophes, des inondations, des tsunamis, etc., parce que des gens, des fois, qui sont couverts, il y en a d'autres qui ont des clauses d'exclusion, malheureusement, là, puis des refoulements d'égouts, etc., mais c'est le même principe. C'est que l'assureur, lui, lorsqu'il prend un risque assurable, qu'on appelle, lui, il va évaluer en fonction d'un nombre de personnes comment ça coûte. Si, dans son risque assurable, vous restez, par exemple, dans une zone inondable, bien, il va vous dire, écoutez, je ne vous assurerai pas, vous allez être inondé. C'est sûr que vous allez réclamer. Alors moi, mon risque, et dans le code, il n'est jamais obligé d'assurer un risque si le risque n'est pas raisonnable. Alors, dans le cas de la COVID, malheureusement, on a vu beaucoup de résidences là, dernièrement qui disent, bien là, mon assureur ne veut plus m'assurer. Il y a une façon de le faire. Bon, le gouvernement, souvent, peut être son propre assureur. Hein. Le gouvernement, on dit, par exemple, le gouvernement fédéral n'emprunte pas dans les banques, il emprunte à la Banque du Canada. Alors, c'est lui qui émet l'argent, c'est lui qui a les réserves d'or, c'est lui qui fait son propre emprunt. Il est son propre emprunteur. Maintenant, est-ce que les provinces, par exemple, pourraient pas mettre en place certains programmes de couverture? On l'a, par exemple, au niveau, je vous donne un exemple, l'assurance maladie, vous présentez votre carte à l'hôpital, vous payez pas, c'est le gouvernement qui paye. En fait, c'est vous dans vos poches avec nos impôts qu'on paye à toutes les années. Là. Mm-hmm. Je viens de faire mon rapport d'impôt, là, et c'est toujours ma petite prière du mois d'avril. Mais heureusement, cette année, on n'a pas à payer avant le mois de septembre. Mais quand même, il reste que ça fait en sorte qu'on aura la possibilité probablement de regarder pour faire une espèce de pool, passez-moi l'expression, de fesses de regroupement auprès de ces associations-là pour qu'ils puissent ou bien recevoir une assurance qu'on dit umbrella, là, qui peut couvrir ces résidences-là, ou que le gouvernement prenne en charge. Parce que sinon, vous savez, un centre de personnes âgées, vous avez 70 ou 80 bénéficiaires qui sont là, et puis que là, il arrive un événement, puis que vous n'êtes pas assuré, bien, bonsoir la visite, il n'y aura pas de réclamation, ils vont faire faillite. C'est ça qui va arriver. Alors, il faudra que le gouvernement, malheureusement, intervienne, parce que ces pandémies-là, ces choses-là font en sorte que l'assureur, lui, qui, excusez, il n'est pas plus cave qu'un autre, là, il dit, moi, j'ai mon risque, il est bien trop grand. Tu vas me payer, mettons, 10 000 $ par année par assurance, c'est sûr que je vais te payer 500 000 ou 1 million en réclamation et j'ai aucun intérêt à aller assurer ça. Alors, dans ce temps-là, ben, il faut trouver d'autres solutions. Puis malheureusement, ben, ces solutions-là passent.
Si le contrat est déjà signé.
S'il est signé, il n'y a pas de problème. Non, ils ne peuvent pas le canceller. Mais souvent, ce n'est pas les assurances-là. Ils sont signés pour un an, deux ans ou trois ans maximum. Et lorsqu'au renouvellement, l'assureur dit, ben là, tu deviens un peu comme un assureur automobile. Vous savez, l'assurance automobile est obligatoire au Québec pour ce qu'on appelle la payette, là, en fait, ce qui est la personne humaine. Mais pour le véhicule, si vous avez déjà eu trois ou quatre accidents, l'assureur n'est pas obligé de vous assurer. Il va dire, non, monsieur, je ne vous assure pas, madame, ou je vous assure, mais ça va vous coûter une palette. Là. C'est comme les jeunes, ça coûte plus cher parce qu'ils ont plus de dangers statistiquement parlant de faire des accidents. Les calculs sont actuariels. Il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Bon, on va parler des campings.
Au temps pour une dernière.
Les campings, oui. Il y a Lucie qui nous écrit sur la page Facebook. Elle comprend que les campings vont réouvrir. Oui, le 1er juin. Il y a beaucoup d'heureux là-dessus. Et elle demande si elle va pouvoir faire des activités normales avec ses trois enfants.
Oui, là, il faut s'entendre. Il y a eu des annonces de fait là, dernièrement pour dire, bon, les campings vont réouvrir. ce que j'ai vérifié, en tout cas à date, là, ça ne sera pas les campings que vous avez connus, madame. Là. Oui, ça va être le fun. Oui, ça va être en plein air. Mais oui, ça va être à distance. Parce que là, écoutez, il y a toutes sortes d'activités qui, normalement, se font dans des campings. On parle de baignade. Hein. Bon, là, si c'est un lac où votre terrain de camping est, vous allez être plus chanceuse parce que les piscines, semble-t-il, que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, jusqu'à nouvelle heure, à moins que le gouvernement annonce d'autres choses. Mais c'est plus difficile de garder une distance sociale dans une piscine que si vous êtes dans un lac au beau milieu dans votre chaloupe, puis que l'eau est fraîche là, au mois de juin ou au mois de juillet. C'est pas mal plus facile. Bon, évidemment, est-ce que vos enfants vont aller à l'eau avec une flottaison probablement, dépendamment de l'âge? Il faut faire attention à des questions de sécurité. Bon, est-ce que vous allez pouvoir jouer à pétanque? Possiblement à distance. Ça, c'est au fer à cheval peut-être aussi, en gardant une distance de 2 mètres. Vous savez, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire à distance. Mais là, est-ce que le casse-croûte à patates, qui est situé à l'entrée généralement des campings, avec les bons vieux hot-dogs estimés, là, est-ce que vous allez pouvoir aller en manger? Réponse probablement oui, mais pas sur place. On parle de take-out. On parle de faire comme les comptoirs, de prendre la nourriture, puis vous allez la manger à votre emplacement sur votre table. Bon, les feux de camp le soir, la même chose. Est-ce que vous allez pouvoir en faire? Possiblement en famille, oui. Est-ce que vous allez pouvoir vous réunir avec, présentement, le décret prévoit encore 3 familles ensemble, 10 personnes? Réponse oui. Encore là, à distance, vous êtes à l'extérieur. Rentrez pas dans les roulottes ensemble. Faites pas un party de roulottes, c'est pas le temps. Mais il reste que certaines activités vont pouvoir se faire. C'est clair que tout ce qui s'appelle sport d'équipe, bon, on parle du soccer pour l'instant, on parle des sports à l'extérieur. Bon, on va pouvoir jouer au tennis en simple, on va pouvoir jouer au badminton, même chose. Alors, tout ce qui s'appelle sport où on peut respecter une distance de 2 mètres à l'extérieur, ça va être permis, terrain de camping inclus. Maintenant, tout ce qui n'est pas activité, évidemment, à distance, bien encore là. Si vous jouiez au drapeau avec vos enfants sur le terrain de camping,
ben ouais,
ou au basket...
Disons que ça ne sera plus comme avant pour l'instant.
On va falloir faire attention.
Avec adaptation, mais ça pourrait être pire si ce n'était pas ouvert.
Ben exact. Merci. Mais exagérez pas.
Non, ben c'est
si
sûr.
Si vous voulez passer l'été sur votre camping, puis il n'y a pas un Horatio qui est chez vous puis qui dit « Ah, là, on ferme tout ça. »
C'est ça, on avertit tout le monde, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent. on ne revient pas en arrière. Merci, M. Boily. Merci à nos auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye-bye.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.